Bienvenue sur
Radio UCLUC.
On est en juin 2022 et pour cette troisième émission de Radio UCLUC, on se demande toujours, plus que jamais et pour quelque temps encore, ce que faire société peut bien signifier. Pensée comme une série d'émissions longues, trimestrielles et thématiques où se croisent l'art, la littérature, la vie, la spiritualité, où des voix diverses font part de leur situation, inventions, réflexions, expérimentations particulières et collectives, Radio UCLUC cherche à déceler les aspirations politiques et artistiques de la société contemporaine. Pour ce troisième opus, nous avons choisi d'explorer les pratiques et influences.
Conçu et réalisé par Angèle Manuali et Mathis Bercherie, cette émission vous accompagne de l'heure du thé au début de la soirée. Pour glisser vers l'été et honorer la fête de la musique, nous avons concocté un parcours éclectique de plusieurs heures où le chant a la part belle. Comme à notre habitude, de nouvelles chroniques littéraires vous sont proposées, offertes par des contributeurices qui ont souhaité partager leurs lectures récentes. L'émission réunit quatre interviews de femmes aux disciplines diverses. La première, de Laure Mazurier des Garennes, comédienne et clown aux multiples facettes cathartiques, qui nous fait part de la manière dont l'état de clown influence la gestion des émotions, le rapport à la mort, la créativité quotidienne et l'interaction collective. Puis, une interview de Lenio Caclea, chorégraphe et danseuse qui inscrit la sociologie et la critique institutionnelle dans sa démarche de création et avec qui nous parlons de représentation et de construction de subjectivité par le corps et l'encyclopédie. Puis une interview de Cyrielle Raillet, comédienne et yogi, qui nous fait part de ses influences spirituelles et avec qui nous discutons de l'axe féministe déployé par sa compagnie de théâtre Louve, ayant pour ambition de déconstruire les rapports de domination patriarcale qui s'exercent dans ce métier et dans la société en général. Enfin, une interview de Mibel Andino, qui partage son approche de l'astrologie et du yoga, l'influence des cartes, l'utilisation d'archétypes pour décoder le réel, sa pratique d'écriture d'un journal quotidien pour comprendre ses rêves et les cycles qui la constituent. Ponctuant ces échanges précieux, nous aurons le plaisir d'écouter une lecture musicale de Senabu Sonko, écrivaine et chanteuse, des poèmes d'Afelandra Sassia, artiste, poétesse, journaliste et cofondatrice du podcast Jouir, ainsi que des chants traditionnels interprétés par la compagnie Louve et une sonate de John Cage. L'émission se terminera en douceur avec Angèle Manuali qui nous offre une méditation, chant de mantra sur le solstice d'été, une invitation à plonger dans ce podcast très musical. Pour finir, une nouvelle collecte de la parole boue vous est proposée, notre habituel micro-trottoir qui cette fois-ci pose la question « Quelle pratique ou influence a changé votre quotidien ?» Pour suivre à votre guise ce programme et avoir des précisions sur ses contenus, vous pouvez vous référer à la ligne du temps indiquée en commentaire sur le lecteur audio et pour davantage de détails et références sur chacune des interventions, rendez-vous sur notre site internet www.uclucmaisondederecherche.com/radio ou sur notre compte Instagram. Bonne écoute sur Radio UCLUC.
Sagittaire, ce n'est pas par prétention que je le dis. Ce qui m'intéresse avant tout est d'être né sous le signe du feu, comme les béliers et les lions. Mais je suis Sagittaire, c'est comme ça. Il y a des signes de terre, d'air, d'eau et de feu. On dit que les signes d'eau sont tournés vers l'émotion, les signes de terre vers le matériel, les signes d'air vers la communication et les signes de feu vers l'action. Je suis Sagittaire. Je le répète pour en être sûr, parce que je ne me reconnais pas dans les descriptions que je lis ici et là sur les Sagittaires. Enthousiaste, idéaliste, visionnaire, indépendante, philosophe, bavarde. Je me renseigne sur les autres signes du zodiaque, mais c'est comme lire dans le vide, car mis à part ma mère qui est cancer, je ne connais pas les signes astrologiques de mes proches. Alors je demande à mon frère, mes amis, mes amants, mes voisins, mes collègues, toutes les nouvelles personnes que je rencontre, pour voir si ça colle. Entre ceux qui répondent à la question spontanément, sans demander quelles sont mes intentions, et les sceptiques pour qui l'astrologie est, quoi qu'il arrive, un grand ramassis de conneries, j'apprends à travers leurs réactions à connaître des aspects de leur personnalité. La première personne que je questionne est Capricorne. Elle ne répond pas tout de suite. Je l'observe. Sur son visage, une pointe de mépris mêlée à de la méfiance. Elle me dit que si, après tant d'années d'amitié, j'avais la décence de me souvenir de sa date d'anniversaire, je devrais savoir qu'elle est Capricorne. Elle a raison. La deuxième personne que je questionne est Scorpion. Il me demande où je veux en venir et dit qu'il n'y croit pas du tout à l'astrologie. On ne peut pas connaître quelqu'un à partir de son signe. Il a raison. On est dans un bar pour fêter l'anniversaire d'une balance. Quand elle finit de souffler ses bougies, je croise Scorpion en allant aux toilettes. Il me dit qu'il accepte de me dévoiler son signe en échange du mien. Je ne lui dis pas que je suis Sagittaire. C'est Balance qui me dit qu'il est Scorpion. La troisième personne que je questionne est Verseau. Il fait un collage avec les deux petites feuilles que je viens de lui donner pour rouler un joint d'herbe. Il me fait penser à Capricorne, en plus radical. Selon lui, l'astrologie est un déterminisme. Il enchaîne avec un monologue sur la liberté d'être qui on veut, peu importe nos origines sociales, ethniques, religieuses, astrologiques. Son discours m'emballe. Je pense la même chose quand on me demande d'où je viens. Ce qui arrive souvent, hélas. Quand je réponds Paris, c'est comme si je ne donnais que mon ascendant, car la plupart du temps, on veut savoir d'où je viens vraiment. Je suis Sagittaire. Ma planète est Jupiter. Verseau, il la vit vraiment comme une insulte, ma question. Pourtant, je ne pense pas à mal. Et d'ailleurs, je n'aurais jamais imaginé qu'une simple question allait le mettre dans un tel état. Sérieux. Il ne prononce pas le moindre mot de tout l'après-midi. Je me sens comme raciste anti-Verseau. Ça me fait réfléchir. Je ne peux pas continuer à demander de telles informations à des inconnus, aussi peu personnelles soient-elles. En tout cas, pas dans la vraie vie. À présent, j'écris des couplets, des refrains, des chapitres, en pensant aux signes astrologiques de mes personnages. Surtout quand j'écris à la première personne. Et ils sont beaucoup moins sceptiques, mes personnages. J'ai une affection particulière pour les Gémeaux. Ils raffolent des jeux de mots. Je suis Sagittaire. J'ai tendance à voir le bon côté des choses, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que je suis Sagittaire que le mal, je ne le vois nulle part. Quand ma vision du monde est méprisée, je le sens aussi intensément qu'un scorpion. Quand ma présence dérange, je le sens aussi intensément qu'un lion. Quand ma liberté est entravée, je le sens aussi intensément qu'un verso. J'ai beau me faire petite comme une vierge, j'ai beau montrer ma sensibilité de poisson, j'ai beau faire la preuve de la diplomatie d'une balance, où que j'aille, des mercuriens se demandent si je parle au nom de tous les sagittaires. Un jour, un homme me dit qu'il ne sort qu'avec des femmes sagittaires. Je trouve cela suspect. Je crois qu'entre ce qu'une sagittaire pense d'elle-même et ce que le reste du zodiaque pense des sagittaires, il y a un fossé. Je n'ai pas peur d'appeler cela discrimination. Je suis sagittaire. Je suis né le 16 décembre 1993, à minuit et demi précisément, pendant que mon père couchait avec sa maîtresse. C'est pas vrai. Les sagittaires mentent aussi mal qu'un cancer. Un jour, je lis ce texte sur scène et une femme vient me voir à la fin de la lecture. Elle veut savoir pourquoi tous les signes du zodiaque sont cités, sauf les taureaux. Elle a raison, elle n'a plus raison. Je suis sagittaire. Comme Edith Piaf, comme Booba, comme Britney Spears. Je suis tellement sagittaire que ceux qui s'y connaissent un minimum en astrologie savent que j'ai écrit ce texte comme une sagittaire, ascendant vierge, lune en capricorne.
C'était Maison Neuf, un texte de l'écrivaine Senabu Sonko sur des harmonies vocales de sa composition. Nous poursuivons cette introduction littéraire et poétique avec une sélection de chroniques d'ouvrages à découvrir ou relire, avec par ordre d'apparition Sorcières, sages-femmes et infirmières, une histoire des femmes soignantes, de Barbara Ehrenreich et Deirdre English, proposée par Mibel Andino. La modernité littéraire indienne, perspective coloniale, recueil co-dirigé par Anne Casting, Anne Guillamon, Laetitia Zekini, chroniquée par moi-même, Angèle Manuelli. Connexion de Kate Tempest, chroniquée par Candice Labrousse, et de la violence coloniale dans l'espace public, visite du triangle de la Porte Dorée à Paris, de Françoise Vergès, par Félicia Bahadur.
Pendant des siècles, les femmes furent des médecins sans diplôme, interdites d'accès aux livres et aux cours, apprenant les unes des autres, et se transmettant leur expérience des voisines à voisines et des mères à filles. Elles étaient appelées bonnes femmes par le peuple, sorcières ou charlatans par les autorités. L'exercice de la médecine fait partie de notre héritage en tant que femmes, de notre histoire, de nos droits fondamentaux. Vous venez d'écouter un passage des sorcières, sages-femmes et infirmières. Une histoire avec E majuscule des femmes soignantes. Traduit de l'anglais des États-Unis par L. Lam et paru aux éditions Kambouraki en 2014. Il a été écrit par Barbara Ehrenreich et Deirdre English. Toutes les deux, des écrivaines et militantes féministes états-uniennes. Elles ont publié ensemble trois essais. Celui-ci, Sorcière, sage-femme et infirmière en 1973. Complaints and Disorders, The Sexual Politics of Sickness en 1973 également. Et For Her Own Good, 150 Years of the Expert's Advice to Women en 1978. Elles étaient engagées dans le mouvement pour la santé des femmes des années 70. Barbara et Deirdre enquêtent sur les racines historiques de la professionnalisation du corps médical. Elles portent un regard féministe sur ce qu'on appelle les chasses aux sorcières en Europe et la suppression de la profession des sages-femmes aux États-Unis. Elles s'interrogent, elles recherchent, elles se demandent: et si derrière ces événements se cachait une véritable monopolisation politique et économique de la médecine par les hommes de la classe dominante de l'époque, reléguant peu à peu les femmes à la fonction subalterne d'infirmières, dociles et maternelles? Eh bien, pour moi, c'est un ouvrage d'une importance capitale. C'est précieux que toutes les femmes puissent lire ce livre, parce qu'elle nous relie à notre histoire de femmes, à notre histoire des santé féminines. Elle nous laisse voir combien ça était difficile depuis des années de nous approprier de la santé ou du domaine de la santé. Mais ce livre déconstruit et détruit également les mythes autour de ce que c'est que la chasse aux sorcières et nous laisse voir à quel point c'est allé bien au-delà de la simple persécution de certaines femmes qui pratiquaient, soi-disant, la magie. Mais surtout, il met en évidence le pouvoir et le poids qui peut avoir un discours dominant sur la société. Il nous montre à quel point ce discours dominant, il peut induire des fausses croyances en utilisant et en véhiculant des mensonges et de la manipulation. Il nous montre également que ce discours n'est pas toujours articulé de sorte à privilégier le bien du peuple ou l'intérêt du peuple. Alors après avoir passé 2 années des pandémies où on a entendu un discours dominant qui pour certaines personnes a été très difficile à entendre et que d'autres l'ont subi, il me semble essentiel pour chaque personne qui a cet élan de contribuer à la société, de s'intéresser autour de quoi cette société elle s'articule et de quoi peut être composé le discours dominant. Alors je vous invite à le lire, il se lit très facilement, il n'est pas très long. Page 56. Le savoir des sorcières était si grand qu'en 1527, Paracelse, considéré comme le père de la médecine moderne, brûla son texte sur la pharmacologie, confiant qu'il avait appris tout ce qu'il savait des sorcières.
La poésie d'Arun Kolhatkar est emblématique de cette inspiration plurielle et du refus corollaire de figer ou d'uniformiser la tradition, le passé, l'identité ou la langue. Elle illustre de manière magistrale à quel point il s'agit beaucoup moins, pour la langue indienne contemporaine de langue anglaise, de contre-attaquer par l'écriture l'ancienne puissance coloniale que de lutter, composer, dialoguer avec toutes les facettes de soi-même, dont, mais jamais exclusivement, l'histoire ou l'héritage colonial. Nombre de ses poèmes s'inspirent par exemple de la littérature et des croyances populaires du Mahastra, et certaines de ses œuvres proposent des relectures ou des versions subversives du Ramayana et du Mahabharata. Elle retrouve en cela l'esprit même des traditions folkloriques et bhakti, qui correspondent à ces traditions alternatives qualifiées d'hétérodoxes par A.K. Ramanujan, dans la mesure où elles reflètent, en les contestant, celles qui furent longtemps considérées comme les grandes traditions marga. Ainsi, le folklore, longtemps associé à l'oralité et au dialecte des langues maternelles, extériorisation de la création collective, retravaille, domestique ou humanise les traditions brahmaniques orthodoxes en proposant des versions plus incarnées, personnelles et concrètes, voire physiologiques et inconvenantes de celles-ci. Sans doute aucun texte d'Arun Kolhatkar ne témoigne de manière aussi explicite de cette réconciliation des temps, des voix, des lieux et des héritages que son recueil écrit en marathi, Bishki Vahi, littéralement manuscrit trempé, sur la couverture duquel figure le hiéroglyphe qui signifiait « larme » en Égypte ancienne. Le titre fait allusion au poète de la Bhakti, Tukaram, dont le manuscrit fut miraculeusement sauvé des eaux après y avoir été précipité par des brahmanes scandalisés par l'iconoclasme de cette œuvre. Dans ce recueil, dont les textes se construisent autour du motif archétypal de la femme en pleurs, s'élèvent les voix de femmes oubliées de l'histoire, à travers tous les âges, et notamment celle de la mère serpent, Jaratkaru, observatrice impuissante du massacre de son peuple dans le gigantesque sacrifice des serpents qui ouvre le Mahabharata. La modernité littéraire indienne, perspective coloniale, est un recueil d'articles, d'essais philosophiques, linguistiques et de nouvelles d'écrivains indiens et chercheuses françaises, éditées aux presses universitaires de Rennes en 2009 et co-dirigées par Anne Casteng, Lise Guillamont et Laetitia Zecchini. Anne Casteng enseigne sur la modernité dans la littérature indie à l'INALCO à Paris. Elle a écrit Ragmala, anthologie des littératures indiennes traduite en français, parue aux éditions L'Asiathèque en 2005, et a traduit plusieurs poèmes et romans de l'Indie au français tels que Intimité de Ashok Vajpayee et Lila de K.B. Vaid. Lise Guillamont est enseignante à l'Université Paris 4 Sorbonne, diplômée de l'École Normale Supérieure et de l'Institut des Langues et Civilisations Orientales, agrégée d'anglais. Elle a soutenu en 2007 sa thèse intitulée « Poétique de la langue autre dans le roman indien d'expression anglaise ». Laetitia Zecchini est agrégée d'anglais et chercheuse au CNRS. Sa recherche porte sur la pensée postcoloniale, la figure de l'étranger dans la poésie indienne et sur la littérature des Dalits, c'est-à-dire les ex-intouchables. elle a traduit des recueils de poèmes « Dans un pays tout plein d'histoires » de Kerdanath Singh, publié aux éditions Caractère en 2007, et « Kala Goda, poème de Bombay » de Arun Kolatkar, paru chez Gallimard en 2013. Pour ce recueil, ces trois chercheuses ont invité plusieurs écrivains, écrivaines, philosophes françaises et indiens afin de donner matière à penser la modernité littéraire indienne par le prisme de la diversité linguistique et culturelle locale, et ont elles-mêmes écrit plusieurs articles qui éclairent le lecteur dans sa compréhension d'une culture par le biais de la poésie plutôt que par celui du documentaire. C'est un ouvrage qui propose un regard alternatif à la pensée postcoloniale de l'Inde en replaçant au centre de son étude les littératures vernaculaires. Il s'agit ici de nous donner accès au contexte social depuis lequel s'est opérée une véritable transgression littéraire du pouvoir. La rupture entre les politiques et intellectuels brahmanes qui ont écrit la grande histoire du pays et les écrivains de la modernité qui ont travaillé à la désacralisation des mythes fondateurs via de nombreuses réécritures. Des auteurs qui ont redonné la parole à la voix populaire et à la subjectivité pour écrire une autre histoire fragmentaire et polyphonique du pays, qui se sont emparés de la langue coloniale anglaise comme d'un outil émancipateur à la fois critique des colons et libérateur du nationalisme radical précolonial, cherchant à imposer une seule identité hindouiste. Une littérature qui se refuse à admettre une seule version de l'histoire indienne, qui met en péril l'identité globale et prône une identité fluide ou l'autre à sa place. Un métissage assumé que Krishna Baldev Vaid qualifie de « parade essentielle contre la guerre sainte ». Parmi les 11 écrivains et écrivaines qui ont contribué à ce recueil, vous trouverez notamment Nirmal Verma, qui nous livre une conception indienne de l'homme dans son environnement et la contradiction qui existe entre un quotidien encore emprunt des rites traditionnels, en même temps que le progrès, la mondialisation, éloignent les Indiens de la connexion au vivant qui devrait être inhérente au respect de ces traditions. Une analyse par Laetitia Zekini du poème Sarpasatra de Arun Kolatkar, qui est une réécriture d'un point de vue féminin de l'un des épisodes du Mahabharata, celui de la mère serpent sur le sacrifice des serpents dont la violence est banalisée. Anne Casting nous éclaire sur le rôle du roman polyphonique dans l'écriture de l'histoire indienne au moment de la partition du pays, article suivi d'une nouvelle de Krishna Baldev Saïd, Le train de Lahore, un voyage en huis clos dont l'écriture à vif montre bien les malaises et discriminations entre les communautés musulmanes et hindouistes à l'aube de la création du Pakistan. Ou encore, Hamid Chaudhuri, qui souligne les failles dans les cultural studies, l'absence dans leurs études de la prise en compte des cultures savantes post-coloniales en regard des cultures populaires. Dans ce recueil, la poésie est présentée comme une manière d'habiter le monde, d'en produire une forme plus inclusive, où l'étrange et l'étranger est une richesse, où l'hybridation des langues nous rapproche des sensations réelles et est la plus apte à rééquilibrer le partage d'un espace et le vivre ensemble. C'est une lecture que je recommande à toutes celles et ceux qui, comme moi, sont touchés par cette culture plurielle de l'Inde, ainsi que par sa poésie, son cinéma, sa sensibilité à la nature, à la transmission de récits, mais qui se sentent peut-être dépassés par les nombreuses histoires et la politique de ce grand pays. Il vous intéressera si, comme moi, vous pensez que la culture et le savoir se créent dans la diversité des sources, des voix, des expériences, des pratiques, des sensibilités, ou encore si l'appropriation, les détournements langagiers et la traduction font partie de vos préoccupations. Certains articles donnent un point de vue différent sur le postcolonialisme que les auteurs ne semblent pas subir, mais qui devient une source de création. C'est un ouvrage qui ouvre beaucoup de portes et qui donne des introductions déjà très denses aux divers sujets abordés. Donc, en trois mots, c'est une mine d'or. Le langage joue donc un double jeu, se fait simulacre, sous l'anglais ostensible de la surface textuelle se cache en fait la langue vernaculaire déguisée. Dans la majorité des cas toutefois, le texte laisse au lecteur le soin de deviner dans quelle langue se déroule le dialogue pour les personnages issus des castes et classes opprimées mis en scène dans la fiction de Mulk Raj Anand. Par exemple, il est évident que le dialogue se propose comme la réaction d'un discours punjabi, puisque ces personnages ne connaissent pas l'anglais. La voix narrative qui adopte fréquemment leur point de vue s'harmonise avec leur ton, leur façon de s'exprimer, gommant les idiotismes trop britanniques et traduisant littéralement certaines expressions indiennes. Munu had dreamed, of course, of all the wonderful things which the village folk spoke about when they came back from the towns, the lalas, the babus, and the sahib from beyond the black waters. L'expression « from beyond the black waters » est calquée sur une expression figée des langues d'Inde du Nord que Munu, un petit montagnard n'ayant jamais vu un Européen de sa vie, pourrait effectivement utiliser pour parler des Britanniques. Cette formule renvoie au tabou que représente la traversée maritime pour les castes hindoues supérieures, tout voyage transocéanique entraînant une perte du statut lié à la caste. Les sahibs britanniques sont des êtres d'autant plus fabuleux aux yeux de Munu qu'ils viennent de ce territoire interdit, au-delà des limites de l'océan.
Je vais vous parler de connexion de Kate Tempest. Kate Tempest, née Kate, est un artiste-poète né au Royaume-Uni en 1985. Et elle passe son enfance dans la banlieue londonienne, et elle commence à écrire ses premiers poèmes au lycée, puis elle commence à se produire sur des scènes hip-hop le soir. En 2014, elle commence par publier des pièces de théâtre, puis un album en 2016, puis un premier roman publié en 2018 en France sous le titre « Écoute la ville tombée ». En France, ses pièces de théâtre sont publiées aux éditions de l'Arche pour environ 14 euros. En 2020, Yael fait son coming out non-binaire. Ainsi, sa dernière publication a été publiée au nom de Kate Tempest aux éditions de L'Olivier en France pour 14,50 euros. Connexion se découpe en 7 chapitres qui relatent des étapes de sa carrière de poète. L'autrice cite ses inspirations comme William Blake, Barbara Ehrenreich, Carl Jung, etc. Dans cet ouvrage, Tempest fouille la complexité de la création en prenant l'exemple de son médium, la poésie, mais il a une portée sur la création en général. D'abord, Yael rappelle les besoins primaires qui doivent être remplis avant de pouvoir créer, à savoir 1. Avoir un domicile, 2. Être aimé sans violence, 3. Pouvoir exprimer sa créativité, assister à des récits, des spectacles. Tempest est très critique dans cet ouvrage des formes d'expression que conditionne le numérique. Ce qu'Internet ne peut pas représenter, c'est l'inconscient collectif, l'esprit des profondeurs parle à travers la poésie, la musique, le roman, l'image et le mythe. Il est déconnecté souterrain, page 57. Et elle s'inscrit également dans une dynamique décoloniale. L'homme chasse, l'homme fait la guerre, l'homme colonise, l'homme consomme, tout en faisant le chantre de la démocratie. La compétition devient naturellement, la compétition génère le progrès. Page 63. Et elle soulève aussi des questions sur l'idée qu'on se fait de soi. Quelle est ta nature à toi? Comment le savoir? Peux-tu te fier à l'opinion que tu te forges de toi-même? Ou dois-tu plutôt tenir compte des choses que tu as faites et que tu regrettes? Et les gens avec qui tu partages? Est-ce que tu prêtes réellement attention à la façon dont tu te comportes? Page 63. Et elle rappelle que l'homme est une créature empathique qui éprouve des émotions vis-à-vis d'autrui et c'est sa grande réussite en tant qu'espèce. Page 66. Aussi, se plonger dans l'histoire d'autres personnes, cela cultive l'empathie quand nous lisons et écoutons un récit qui nous est raconté. Pour peu qu'il comporte une certaine dose de suspense, notre cerveau libère du cortisol dans notre système sanguin, favorisant l'attention et la concentration, ainsi que de l'ocytocine, hormone associée à l'attachement et à l'empathie. Page 67. Il y a les critiques de la société patriarcale, mais également des formes d'apathie qu'engendre la surconsommation du numérique. Aussi, il y a le conseil de jeûner le digital régulièrement pour mieux l'appréhender et reconnecter avec sa créativité. J'aime telle ou telle chose parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je vais faire telle ou telle chose parce que c'est ce qu'on a toujours fait dans ma famille et c'est ce qu'on attend de moi. Page 136. Tempest insiste que le fait qu'un artiste ne doit pas se forger un style mais peut multiplier les expérimentations, l'un des biais pour arriver à cette ouverture est de dissocier identité et potentiel créatif. Tempest conseille de fuir des formes matérielles qui engendrent une sédentarité physique mais aussi intellectuelle. Il n'est guère aisé d'accéder à la conscience de ses propres besoins, ni de poser des limites qui nous protègent de nos propres transgressions. La facilité, c'est penser que l'amour exige de nous qu'on se saigne aux quatre veines pour la personne aimée, qu'on relègue au second plan nos désirs pour donner priorité aux siens, qu'on se dépouille totalement dans l'espoir que ce sacrifice ne sera pas à sens unique. Les couples que nous montrent les agences de marketing et les films, les couples des pubs pour parfums, le portrait fait à la télé, des relations qui durent, tout cela véhicule des messages nocifs. Page 86. Je finirai cette chronique par ce dernier extrait. J'ai appris tout au long de ma vie à accorder une valeur démesurée au bien matériel, au statut social, à l'adhésion du public. J'ai dû me défaire de cela pour m'habituer à chérir ce qui est immatériel, ne m'apporte pas une satisfaction immédiate, les échanges anecdotiques, l'intimité sincère. Page 138.
En France, blogs, podcasts, ateliers en ligne et hashtags se multiplient. Diffusons des récits, rappelons des faits, posons des questions sur la décolonisation des savoirs, dénonçons le harcèlement racial dans les écoles d'art et dans les arts. Ces actions offrent un terrain pour imaginer et développer les actions d'éducation collaborative qui répondent le mieux à nos besoins dans un pays, la France, où les élites politiques et médiatiques sont particulièrement hostiles à toute analyse du racisme structurel, de la négrophobie et de l'islamophobie, où toute analyse sur le racisme dans les arts et la culture est farouchement rejetée et immédiatement assimilée à de la censure. Décoloniser les arts est un projet cofondé par Françoise Vergès, où elle a rencontré Sumboy Vrenon, avec qui elle a produit ce livre « De la violence coloniale dans l'espace public, visite du triangle de la Porte Dorée à Paris », publié par Shed Publishing en 2021. Sumboy Vrenon est un artiste contemporain, mais plutôt une sorte de pop-pédagogue qui fait le travail dont Vergès a parlé dans cette citation. La chaîne de Sumboy est en français. Pour les anglophones, je suggère Know Your Caribbean. Shed est une maison d'édition indépendante qui a été fondée par Lydia Amarouche. Et ce livre est une sorte d'incarnation de choses qui me tiennent particulièrement à cœur et qui informent ma pratique artistique en ce moment. La fondation de la maison d'édition est issue de la tradition de l'arpentage, qui est l'éducation de la culture ouvrière, et dont, je crois, l'évolution et la pédagogie pop de YouTube ou Instagram, etc. Et ce qui est également intéressant, c'est que Shed utilise l'écriture multigenre. Il y a une charte au début du livre, et sur le site, on dit que cette charte soit en mouvement. Bon, être en mouvement, c'est pour ça que je fête le fait que le livre n'était pas simplement lancé. Le lancement était une table ronde avec, entre autres, Olivier Mabeuf, et modéré par Françoise Vergès, sur les actions artistiques ou poétiques ou politiques dans l'espace public autour des statues, et aussi une projection du film « Les statues mûres aussi », un documentaire réalisé en 1953 par Chris Marker, qui était une sorte de film super trippant, qui était censé juste documenter les statues, mais qui a fini par dénoncer le racisme structurel des musées français vis-à-vis de l'art africain. Bon, moi, j'ai eu beaucoup de chance que ma prof d'histoire d'art à l'Université des West Indies, Pat Bishop, nous ait fait prendre conscience de l'injustice de la caractérisation de certaines œuvres d'art comme primitives et de ce qui implique les ethnographies. Mais pour beaucoup de gens, ces questions ne se posent qu'après 2020. Et ce livre est une sorte de marqueur de l'énergie mobilisée pour diffuser cette information, pour rallier les esprits et les corps afin de défier le racisme structurel. Bon, à première vue, parce qu'il traite de l'architecture coloniale pure et dure de son optique, bon, des corps non européens au travail, composition chaotique et généreuse, célébrant l'agro-extractivisme et l'exode du monde non-européen et donc pas encore ordonné, de la violence coloniale dans l'espace public pourrait n'être qu'un essai. Mais comme il prend Paris comme exemple et fait ce qu'une trentaine de groupes post- et décoloniaux en Allemagne font à différents degrés, remettre en question dans nos vies la présence de statues, de monuments et de noms de rues qui célèbrent les hommes liés à l'histoire de l'esclavage, de la ségrégation, du fascisme, de, la, de la colonisation et du racisme. Je le vois un peu comme un manuel pour s'engager dans un discours malheureusement encore assez radical. Bon. Pour moi, la lecture collective est liée à une recherche féministe et décoloniale plus ou moins indépendante qui essaie de combler les gaps. Un autre fond de ce travail est les rêves artistiques dont parle Vergès dans un article récent de Contemporary Art sur sa participation à la Biennale de Berlin de cette année, dont Kader Atiya est le commissaire. Elle dit « Two things are important today, transmission and imagination. And artists, rather than art, play an important role in both. Transmission of forgotten stories, forgotten figures, narratives, memories, and individual stories. Artists are able to show us what we don't see, but which is there, right under our eyes. And we need so much to foster the power of imagination, which capitalism restricts. There is no struggle without that creative dimension. Artists can translate hope, anger, revolt, joy, and aspirations into art dreams. »
Poème de corps à cœur. Saturne tourne autour de mon bras gauche. Énergie yang, astre de feu, une planète en équilibre, prenant la mesure du temps qui passe, un tatouage comme un miroir de mon passé, rêve adolescent, indolente insouciance à laquelle j'aime pouvoir me raccrocher, un jour ensoleillé, une fin d'été agitée, une aiguille s'est posée sur mon membre, y a marqué 1001 pointillés, un moment suspendu, une douce parenthèse aurorale que je ne peux oublier. Aujourd'hui, Saturne me guide, me fait prendre conscience du pouvoir du temps présent et du chemin parcouru, rester dans l'instant. Être patient. Gravir un peu plus tous les jours, chaque marche du grand escalier qu'est la vie. J'ai inversé l'épaule avec ma douce nouvelle lune. Chandra la belle s'est levée cette fois-ci au creux de mon bras droit. Une tension palpable, une constellation de poils autour, une famille d'étoiles porteuses d'espoir que je ne peux m'empêcher d'admirer. Les soirs, où la nuit nous plonge dans une intense quête introspective. Chandra m'éclaire depuis plusieurs mois. Je suis à l'écoute de son rythme, de ses variations, de son irritabilité. Satellite couleur d'argent, objet fécond, juste rappel de ma féminité. Une nouvelle lune en construction, une nouvelle page qui s'ouvre, pleine de promesses. Une nouvelle lune qui trouvera un beau jour de printemps son pendant, lorsque les rayons se font encore timides, souria dans sa pleine énergie, un équilibre, une complémentarité que je vois se dessiner avec joie au bout de ce long et tortueux tunnel que je gravite pas à pas. Ma peau devient ainsi le livre de ma vie, un agglomérat d'extraits choisis en conscience, l'aiguille qui titille la chair, une douleur comme une caresse, que l'on prend le temps de savourer.
Vous venez d'écouter Poème de corps à cœur d'Afelandra Sassia. Et sans plus tarder, notre première invitée pour parler pratique et influence du clown, Laure Mazurier-Desgarennes. Issue d'une formation d'art-thérapeute, elle découvre un jour le Slavas No Show et dès lors se passionne pour l'art du clown, qu'elle incarne pleinement aujourd'hui. Elle s'engage sur cette voie grâce à l'enseignement au Die Killing à Marseille et à sa rencontre avec Yves Fravega et la compagnie L'Art de Vivre à la Belle de Mai. Elle suit de nombreuses autres formations qui l'amènent sur le chemin d'un clown sensible, lumineux, naïf, malicieux et authentique, qui deviennent un outil relationnel et transitionnel précieux lorsqu'elle dirige des ateliers au long cours avec des publics des quartiers défavorisés ou dans le cadre de l'accompagnement sanitaire.
Et puis attends, je vais prendre mon nez aussi. J'en ai plusieurs, mais ça c'est mon plus vieux nez, celui-là. C'est toi qui les as fait ?
Non, ça c'est en silicone et ça c'est du cuir. Ça c'est Stéphane qui les fait, ça je sais plus. Ça sera pour mes prochaines créations.
C'est très beau.
Ouais, celui-là c'est Tempête, je l'ai appelé Tempête.
Parce que vous personnalisez vos nez ?
J'ai demandé, ouais, elle est personnalisée, ouais. J'ai envie de créer un solo clown. C'est en projet.
D'accord.
Ça va prendre un petit temps, mais c'est en processus, quoi.
Mais qu'est-ce que c'est le rapport au nez que tu as ? C'est que c'est des choses qui, comme qui te portent bonheur ou qui portent le personnage à l'intérieur de l'objet, enfin...
Moi, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du champ du possible. Il y a même un côté un peu gris-gris aussi. Ouais, le nez, mon nez, c'est aussi le jeu. Ouais, cette possibilité de jouer et de pas forcément avoir de limites, de pousser très loin le curseur et la connerie.
C'est quelque chose qui se retrouve chez tous les clowns, d'avoir cet attachement, oui.
Je pense que c'est des questions ça, qu'on peut être amené à nous poser, tu vois, quand on fait des stages ou des formations. Et c'est très varié. Il y en a qui peuvent très bien prêter leur nez, qui en ont rien à faire, qui changent de nez tous les deux du matin. Moi, je sais que... Moi, j'y tiens, je les prête pas, vraiment. Et puis, ils ont leur petit... Enfin, tu vois, là, j'ai une petite boîte derrière. Ça, c'est la petite boîte pour mettre mes nez. Et ouais, il y a un rapport assez intimiste avec mes nez, ouais. C'est mes petits gris-gris, quoi. J'y tiens énormément. C'est comme si c'était un peu une porte vers la créativité, en fait. Ça me permet de me connecter à ma créativité. Ouais.
Là, t'as dit celui-là, il est créé pour Tempête. Est-ce que Tempête peut aller sur un autre clown ou enfin qu'il soit toujours toi, mais un autre personnage ou...
Eh ben, tu vois, ça, je l'ai fait. C'est marrant que tu parles de la question du personnage, parce que la dernière formation, je me suis dit, est-ce qu'on peut avoir... Tu vois, c'est vraiment la grande question, c'est vraiment le débat. Est-ce que on a un ou est-ce qu'on a plusieurs clowns ? Et ben, bien sûr, ça crée un débat. Et moi, je me dis que au plus, là, j'avance et au plus, je me dis que je ressens le besoin de découvrir mon personnage clown. Et ça passe par justement ce processus-là. Tu vois, là, j'avais fait sonner en me disant « Mon clown, il va être comme ça. » Et puis, mais peut-être que, tu vois, dans un mois, dans un an, je te dirais « Bah non, en fait, c'est pas ça. Mon personnage, il va plus dans cette direction-là, en fait. » Pour le moment, tu vois, j'ai pas encore trouvé mon personnage. Je suis vraiment dans une sorte d'exploration. Et cette exploration, elle se fait sur le plateau. C'est-à-dire que j'éprouve mon clown au travers de l'état de clown. C'est comme ça que j'arrive à dégager certaines énergies, l'imaginaire peut-être de mon personnage. Là, ce qui ressort beaucoup, là, depuis quelques temps, c'est mon personnage clown, il est habité par la connerie. C'est un personnage qui adore bouger. Il pourrait être gymnaste, il pourrait être danseur contemporain. Il est lumineux. Donc peut-être que ce nez-là, par exemple, que j'ai personnalisé, eh ben, il n'ira plus du tout avec ce qui va être amené à émerger... dans les mois à venir, en fait.
C'était un peu la question que j'avais en tête quand t'as commencé. C'était, est-ce que c'est déjà arrivé que tu prépares en amont ton apparence du personnage en projetant beaucoup dedans et une fois que tu enfiles ton costume, ton maquillage, tes accessoires, ça te fait jouer complètement différemment de ce que t'avais pensé.
Bah, c'est marrant que t'en parles, parce que ça s'est passé ce week-end, parce que j'étais en formation là au Daikiling à Marseille, et avec Bruno Krief. Bon, là, on travaillait sur la prouesse, mais il était question de venir éprouver un peu son personnage, ou du moins d'essayer de le rencontrer. Et il nous avait demandé d'apporter un costume, ou du moins une ébauche. Je pense que c'est là où tu parlais de la porosité entre soi et le clown. J'avais peut-être inconsciemment le besoin d'amener un peu trop de l'or dans mon personnage clown. Donc j'avais apporté un peu un costume, un pantalon... bleu, un t-shirt marin à rayures, tu as beaucoup le rapport à la mer, à la tempête, et quand je l'ai enfilé et que je me suis mis sur le plateau, non, en fait, il y avait quelque chose qui se jouait pas, je trouvais pas mon énergie, ça me donnait pas envie de jouer, et je me suis dit non mais ça va pas en fait, ce que j'avais projeté en fait ne fonctionne pas, et je me suis retrouvée à enfiler une sorte de
je sais pas, de maillot jaune avec un S sur la poitrine, donc complètement à l'opposé de ce que j'avais voulu proposer. Et là, pour le coup, j'étais dans une toute autre énergie dans laquelle je me suis amusée. Je me suis amusée, en fait. C'est venu réveiller une sorte de connerie. Et d'ailleurs, c'est là où il m'a lancé le défi d'être la danseuse contemporaine, de l'incarner. Et puis là, je suis partie dans un délire. C'était jouissif, quoi.
Et là, tu parles de contraintes qui te sont données pendant des stages ou des formations, mais est-ce que aussi, maintenant ou avant, je sais pas, de te mettre tes propres contraintes ou d'y penser comme ça, ah, j'aimerais bien tester de le faire comme ça ou...
Bah, là, c'est le but, en fait. C'est-à-dire que le clown, en fait, c'est un personnage qui est en permanence en train de se mettre en difficulté. Il est dans un état de survie permanente. Enfin, le but, hein, c'est de jouer le jeu. Si tu sors pas de ta zone de confort... Ça sera très difficile de venir connecter l'état de clown. Moi, il n'y a pas vraiment de sujet tabou qui me pose problème. Ça m'est arrivé de venir jouer la mort, par exemple. J'avais des questionnements par rapport à la mort. Et je me suis dit, bah, tiens, si je venais l'éprouver sur le plateau. Tu vois, le clown, il peut dénoncer ou il peut amener des sujets, mais il va toujours l'amener sous l'aspect du... Il va toujours y apporter une touche de ridicule. Et ça va toujours partir à partir de lui. Le clown, il est tourné vers l'autodérision. Et du coup, comment j'amène la mort sur le plateau? Donc me décoller de l'image de la mort, l'image très grave de la mort, de potentiellement des croyances ou des peurs qu'on peut avoir. Et comment j'y mets ma touche de clown là-dedans? Et ça, c'est un challenge. Il y a un travail d'exploration, d'improvisation. Alain Gautré, il parlait de floraison. Comment je fais fleurir cette idée-là? Comment je la développe pour la faire exister et pour que ça devienne quelque chose de l'ordre de la prouesse ou de l'exploit. Prendre cette distance nécessaire, parce que le clown, il est toujours... il y a quelque chose de l'ordre de la distance avec le clown. Ça lui colle pas à la peau.
Est-ce que c'est obligé que ce soit tourné au ridicule? Est-ce que c'est la seule issue pour le clown de traiter un sujet comme la mort, par exemple?
L'objectif du clown, ça va être de faire rire. En fait, il y a différentes écoles. Il y en a qui vont développer peut-être plus du clown poétique. Et puis il y en a qui vont te dire, ouais, le clown poétique, poétoque, tu vois, ça fonctionne pas. Un clown, quand même, ça doit se nourrir un peu du fond de marmite de clown qui doit savoir faire plein de choses. Le clown a pour objectif premier de faire rire. Tu peux aborder un sujet et oui, jouer la peur de la mort, mais il y aura un côté toujours, un peu cette ironie dramatique, un peu, tu vois, où... viendra faire « Oh, j'ai peur de mourir, pourquoi ?» Tu vois, il y aura toujours quelque chose comme ça. C'est pas obligé. Il y a ce challenge, en fait, d'arriver à se décoller de quelque chose et de le transcender. Moi, ce que j'aime sur la scène, c'est d'arriver à transformer peut-être des idées reçues, des tabous. C'est tout le challenge du clown, en fait. C'est d'arriver à faire passer des messages autrement que par le côté un peu trop dramatique.
Je reprends le thème de la mort, vu que tu avais commencé avec ça. Ouais. Est-ce que cette approche, elle est complétée par d'autres influences, d'autres cultures, par exemple? Je sais que ta grand-mère, elle est vietnamienne ou cambodgienne,
ouais,
je sais plus.
Ouais, ouais.
Les deux.
Ouais.
Après, c'est pas forcément un lien de parentalité, ça pourrait être une toute autre culture, mais est-ce qu'il y a comme ça des courants de pensée, de manière à voir le monde qui existent, qui t'influencent?
Par exemple, par rapport à la mort, moi je sais que j'ai cette prise de recul aussi dans mon quotidien, parce que j'y ai été confrontée. Je pense que mon parcours de vie me permet aujourd'hui d'apporter une sensibilité particulière, de mettre la personne que je suis à disposition de mon clown. C'est-à-dire que je vais lui servir de matière. Mon clown va venir trouver son inspiration au travers peut-être de mon parcours de vie et de mes expériences. Après, oui, la culture... moi, c'est vrai que ma grand-mère, la mort, elle a un rapport à la mort qui est complètement différente des Occidentaux. Il y a la question de la réincarnation. C'est quelque chose qui ne lui fait pas peur, en fait. Donc oui, sûrement. Ça vient peut-être influencer inconsciemment, peut-être. C'est plus inconscient, je pense. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, ce qui m'inspire, enfin, en tout cas, ce qui nourrit mon clown, c'est mon parcours de vie atypique.
Oui, bah, c'était une belle, je sais pas si on peut appeler ça une introduction, parce que c'était quand même finalement directement dans le vif et très précis. Mais on va un petit peu reprendre quand même dès le départ, parce que ça pourrait être bien déjà que tu nous dises par quel biais tu as découvert cet univers du clown et comment t'en es venue toi-même à être clown. Tu parlais de parcours de vie. Donc voilà, si tu pouvais déjà introduire un peu ça.
Alors, moi, en fait, la première fois que j'ai rencontré le personnage du clown, ça a été au cirque, quand j'étais enfant. Et c'est vrai que on n'a pas été du tout copains. Enfin, c'est quelque chose, très honnêtement, hein, ça me faisait... quand on me disait, allez, on va au cirque, j'étais là, oh, non, il y a le clown. J'avais qu'une peur, c'est qu'il vienne me chercher dans le public pour m'amener sur la scène. Et puis, c'est moi qui étais très réservée, je le trouvais trop expansif, trop extravagant. Clairement, il me faisait peur. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques années, mon compagnon m'a fait une surprise. On était sur Paris. Et je me rappelle toujours, il m'a bandé les yeux. C'était vraiment la surprise. Et puis, quand il m'a...
tombé au cauchemar.
Ça aurait pu. Et je me rappelle, donc il m'enlève le bandeau sur les yeux. Et là, je découvre une immense pancarte. Je vois Slava Snowshow. Je ne savais pas ce que c'était. Et je vois un clown. Et là, je dis, oh non, c'est pas possible. Je l'ai regardé, il m'a dit « Oh là, ça y est, j'ai fait n'importe quoi, c'était la mauvaise surprise. » Et en fait, il se trouve que le Slava Snowshow, c'est un, je sais pas si tu connais, c'est une compagnie de théâtre russe. Et moi, j'ai été conquise. Il y a un univers qui est très marqué, très onirique, très un imaginaire très très développé. Tu te retrouves avec des énormes ballons qui balancent comme ça dans le public, mais des ballons, c'est des trucs énormes. T'as des tempêtes de neige qui arrivent comme ça, qui nous balancent pareil dans le public. Il y a une interaction publique qui est très forte. Et puis oui, il y avait cet imaginaire, cette poétique qui moi m'a beaucoup touchée. Je me suis retrouvée enfant quoi dans le public. J'avais envie de goûter à tout ce que j'étais en train de voir. J'étais émerveillée par ce qui m'était donné à voir. Et je me suis dit, j'ai envie de développer ça. Il y a eu vraiment une rencontre et je me suis dit, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de savoir ce que ça fait que d'être clown. Et oui, je pense que vraiment ce qui m'a marquée, c'est cette capacité de rêverie et le fait de s'autoriser cet imaginaire. Et après, c'est là où j'ai commencé à sur Marseille, parce que là, ce qui est chouette à Marseille, c'est qu'on a une offre qui est quand même assez importante. Donc j'ai commencé avec le théâtre Marie-Jeanne. Et puis après, j'ai découvert le Daikining qui propose des formations clown qui sont assez variées et avec des professionnels aussi du...
Et qu'est-ce qui a fait à ce moment-là, parce qu'on peut voir des choses qui nous touchent particulièrement, qui répondent à quelque chose à l'intérieur de nous, qui nous donnent envie de tester ou d'en voir plus. Ça peut passer simplement par le fait d'avoir envie de retourner au spectacle, ça peut passer par le fait d'aller en faire en amateur, mais qu'est-ce qui donne envie de vraiment s'investir corps et âme dans le clown? C'était quoi la différence pour toi quand t'as vu ce premier spectacle? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi pour que tu aies envie d'être toi-même dans cette position-là et pas juste de le savourer en termes de spectateur?
J'étais une petite fille très timide au départ. C'était vraiment de la timidité. Et oui, je me suis toujours un peu sentie empêchée et j'avais un imaginaire qui était très très présent mais que je gardais pour moi, que je mettais jamais à l'extérieur. Et c'est vrai que cette rencontre avec le Slavas est venue vraiment me percuter au cœur en fait. Il y a eu quelque chose de l'ordre du comme un effet miroir en fait. Je me suis reconnue en fait à travers cet univers-là et je me suis dit j'ai besoin. Il y avait quelque chose de l'ordre du besoin vital de m'engager sur cette voie-là pour peut-être témoigner de quelque chose. Témoigner d'un état, oui, il y avait un besoin de témoigner, je pense, inconsciemment. Je me suis dit, ça va être le moyen pour moi de parler.
Tu parlais de l'urgence du clown tout à l'heure. Il y avait une urgence d'expression.
Il y avait quelque chose de vital et en plus qui est très drôle, enfin drôle, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'avais des gros, gros problèmes de santé. J'avais une maladie auto-immune qui m'empêchait de bouger. Et j'ai découvert qu'en mettant le nez de clown... beaucoup de mes symptômes avaient tendance à régresser et je trouvais une liberté de mouvement qui peut paraître très paradoxale. Il y avait un côté un peu magique dès que je mettais le nez. C'est comme si oui, le nez en fait avait cette possibilité de me donner cette possibilité de m'exprimer et de bouger. Ouais.
Peut-être que tu n'as pas encore ressenti cette deuxième phase et peut-être tu la ressentiras jamais, mais est-ce que la question de la transmission s'est déjà posée pour toi? Est-ce que, vu que tu parles de ce déclic, de cette magie de retrouver du mouvement, par exemple, c'est...
Clairement, oui. Ça, c'est cette envie de l'enseigner. C'est quelque chose qui est dans un coin de ma tête, comme ça, que j'ai vraiment, vers lequel j'ai vraiment envie de tendre. Sachant que moi, à la base, je me suis formée à l'art-thérapie, mais il me manquait quelque chose. Je ne m'y suis pas totalement retrouvée. Moi, le clown, c'est quelque chose que j'aimerais par la suite transmettre, voire sur lequel j'aimerais m'appuyer. Mais pour moi, on ne peut pas enseigner le clown si on ne s'est pas confronté à cet état. On vient se rencontrer à un niveau de conscience qui est très subtil. Le clown, l'état de clown, c'est se poser en permanence la question de qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce que ça vient me faire dans le corps ? Quand je fais telle action, qu'est-ce que ça vient me faire dans le corps ? Qu'est-ce que je ressens ? Et à partir de ce que je ressens, et ben, le clown, il va être amené à, je te parlais de la floraison, à développer cet état-là. Et ce qui est très difficile, on est une société qui est pas très à l'aise avec, avec ses émotions. On a tendance à être beaucoup dans la tête. Moi, pendant mes formations, j'ai beaucoup aimé le mot psychotronchage. On est les rois du psychotronchage. On a tendance à se perdre un peu trop dans le cérébral et à oublier le corps. Et c'est vrai que le clown, en permanence, il vient te ramener dans les pieds, en fait. Le clown, il a les pieds dans la merde, en fait. Il a les pieds dans la terre, quoi. Et il te ramène à chaque fois au sol. Et je pense qu'avant d'enseigner, c'est important de venir se confronter au plateau. Et tu le vois, quand t'es sur le plateau, ton ego, il vient souvent prendre le dessus, en fait. Parce que le clown, étant donné qu'il est dans un état de survie, il vient te mettre dans une zone d'inconfort. Le clown, il est toujours dans un état de dénuement. Il se confronte en permanence au vide, quoi. Et à l'échec. Et ça, l'échec, pareil, c'est quelque chose avec lequel on n'est pas... Enfin, en tout cas, moi, avec lequel j'étais pas forcément à l'aise. Et avec le temps, je le deviens. Parce que le clown, c'est l'échec, c'est une succession d'échecs. Et s'il arrive à réussir, c'est un peu à son insu. Il l'a pas fait exprès. Tu vois, il y a un côté un peu tragique, quoi.
Tu dis, il nous ramène à la terre. Dans mon imaginaire de clown, c'est quand même quelqu'un de très... Ben oui, qui tombe, qui est vacillant ou qui fait des pirouettes ou qui est très, au contraire, dans la légèreté. Mmh. Et comment ce personnage-là peut nous ramener sur la terre en étant dans une attitude physique telle que je viens de la décrire.
En fait, le clown, tu vois, c'est un personnage qui, face à cet état de panique intérieure, en fait, va avoir tendance à s'ouvrir. C'est-à-dire qu'il va il balance au public, en pleine tronche, en fait. Et je pense que cet état de dénuement nous renvoie, je pense, à notre propre humanité. Il nous renvoie à notre propre humanité, à nos fragilités, à ce qu'on veut pas voir. Le clown, pour moi, il vient refléter un peu l'état du monde.
Mais je sais pas si nous renvoyer à l'humanité, c'est forcément nous raccrocher à nos racines, ou parce qu'on a une humanité qui a besoin de rêver aussi, qui aime rêver. Mmh. Et en plus, le clown, je trouve, s'adresse peut-être dans sa manière de faire à notre cerveau un peu d'enfant, qui est aussi parfois encore plus flou entre la réalité ou la fiction, mmh, ou le rêve. Du coup, je me demandais pourquoi tu avais utilisé cette expression d'ancrage, en fait.
En fait, je pense que le clown, il va à l'essentiel. Tu vois, moi, avec le clown, la première chose que j'ai appris, c'est de respirer et de regarder mes pieds. C'est pour ça, peut-être, que je te dis que il y a quelque chose de très primitif dans le clown. Il y a rien de raisonné dans le clown. Il est déraisonnable, en fait. Il n'est pas habité par la raison, c'est pas quelqu'un qui est amené à réfléchir. Il réagit, il surréagit, mais il réfléchit pas. La première chose qu'il fait, c'est respirer, s'écouter, et il est dans le corps. Il a un état de corps qui est très, très subtil, quoi.
D'accord, c'était dans ce sens-là.
Ouais.
Et donc, comment choisir son clown ?
Je pense qu'on ne choisit pas son clown. Il s'impose à nous. Et tu vois, là, j'ai sorti le livre de Michel Dallaire. Là, c'est Le clown, l'art et la vie. Et j'ai commencé à le lire. C'est marrant, ce livre-là, il est venu comme ça dans ma vie, là, il y a quelques semaines. Et en fait, il disait, on n'est pas clown, on est clown. Et dans son descriptif du clown, je me dis, mais en fait, moi, j'ai toujours été clown. Donc, je pense qu'on ne le choisit pas. Après, je pense qu'on est amené à grandir. Et la vie, la société fait qu'on est amené à se mettre des masques. Et tout l'intérêt, justement, du jeu de clown, c'est d'arriver à se défaire de ses masques et à aller vraiment se connecter à son essence. Et c'est ça qui m'anime, en fait. J'ai l'impression de me reconnecter et même parfois de me faire surprendre par des parts de moi que mon clown vient mettre sur le devant de la scène. Tu vois, je te disais que moi, dans la réalité, ma réalité fait que le mouvement est pas forcément toujours aisé. Mon clown, c'est un danseur contemporain, quoi. Il adore le mouvement, il a une énergie de dingue,
Et ça, je trouve que c'est quelque chose de l'ordre de, du magique. Ce personnage clown, je pense qu'il s'impose sur la durée, en fait. Tu te découvres déjà sur le plateau, tu viens t'éprouver sur le plateau, et donc il y a des choses qui émergent. Et je pense qu'après, quand tu passes l'étape de la mise au dehors, où là, tu te confrontes au public, il y a encore d'autres choses qui se mettent en place. Ce personnage, oui, il s'impose à un moment, mais avant ça, je pense qu'il y a tout un travail de rencontre, de déblayage, de déconstruction avant cette rencontre-là avec le personnage ou ton personnage clown.
Oui, puis le personnage lui-même n'est pas immuable. Si on va dans le sens de ce que tu expliques, ça veut dire que ton clown à 50 ans, 70 ans va suivre aussi ton évolution personnelle, tes nouveaux vécus et expériences, et va peut-être même complètement changer d'ici quelques années.
Bah moi c'est ce que je pense. Après il y a peut-être d'autres clowns qui te diront pas du tout, mais moi je pense que oui, c'est quelque chose qui évolue à côté de nous en fait. Encore ce week-end j'ai entendu cette phrase, ce clown c'est pas moi, le clown n'est pas moi, mais il est proche de moi. C'est comme un compagnon de route en fait. Je suis au service de mon clown, ou le comédien est au service de son clown.
Et tu disais que le clown, ça servait aussi à enlever les masques que nous pose la société ou qu'on se met soi-même. Et pourtant, ça a quand même un maquillage ou un accoutrement assez chargé, parfois. Pourquoi enlever des masques pour en remettre un autre? Enfin, comment ça fonctionne?
Alors déjà, alors c'est vrai qu'il y a le maquillage il y a le nez aussi, qui est vraiment un tout petit masque. Je pense qu'il y a des clowns, en fait, qui ne mettent pas de nez, qui mettent pas très peu de maquillage. Après, dans les stages et les formations clowns, au départ, le premier jour, on se rend compte, comme ça, on est tous dans nos costumes, on se regarde du coin de l'œil, comme ça. Et puis, il y a le premier passage au plateau. Et là, tu te rends compte que il y a tout qui tombe, parce que dans le clown, il y a une part d'improvisation quand même qui est très très importante. Et dans l'improvisation, tu fais face au vide, tu pars de rien en fait. Et comment tu fais pour continuer à avancer à partir du rien? Il y a un côté où t'es obligé de te rattraper un peu à tout ce qui te tombe sous la main. Il y a quelque chose de l'ordre du spontané qui s'impose. Alors tu peux essayer de te dire bon, je vais y apporter une part de moi, mais tu vas te rendre compte que dans l'urgence, ça fonctionne pas. C'est pas compatible, quoi. Et que pour arriver à t'en sortir, il va vraiment falloir que tu sois à l'écoute de ce que t'offre la vie sur le moment, de suivre le chemin que ton corps t'indique ou que tes sensations t'indiquent. Et c'est là tout le challenge pour le comédien ou la personne qui vient éprouver le clown. C'est de dire « Ok, je fais confiance et je fonce. » J'apprends à m'exprimer aussi. Ça aussi, c'est une belle leçon de vie, le clown. Il nous apprend à nous connecter à nos émotions et à les jouer et à en jouer aussi.
De Max Frisch, réflexion sur l'amitié.
Aimeriez-vous pouvoir vous passer d'amis?
Avez-vous un chien pour qu'il vous tienne d'amis? Est-il déjà arrivé que vous n'ayez aucune amitié, ou réduisez-vous alors tout simplement vos exigences sur ce point?
Considérez-vous la nature comme un ami? Existe-t-il des ennemis dont vous voudriez en secret faire des amis afin de pouvoir les admirer plus facilement?
Quel degré de sincérité supportez-vous de la part d'un ami? À supposer que vous ayez un ami qui vous soit supérieur du point de vue intellectuel, son amitié vous console-t-elle de la chose?
Comment parlez-vous d'amis perdus ? S'il advient que l'amitié vous oblige à faire quelque chose qui soit en principe contraire à votre conscience, et que vous l'ayez fait au nom de cette amitié, l'amitié en question, s'est-elle maintenue grâce à cela ?
Existe-t-il une amitié sans affinité d'humour ? Êtes-vous un ami pour vous-même ?
Thank you.